Je vous ai présenté Jean Roy, cet après-midi, sans dire qui il est plus que cela, par rapport à foi et partage. Je vous avais présenté Claude aussi, puis sa sœur, la tante de Jean. Alors, Jean est le coordonnateur nord-américain de foi et partage. Alors, c'est pour ça que je vous le présente et je lui demande de faire la lecture qui va débuter ce soir notre célébration.
Du livre de l'Exode. Yahvé dit, « J'ai vu mon peuple humilié en Égypte, et j'ai entendu ses cris lorsque ses surveillants le maltraitent. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter d'ici vers une terre spacieuse et fertile, un pays où coule le lait et le miel. Le cri des Israélites est maintenant venu jusqu'à moi. J'ai vu les mauvais traitements que leur infligent les Égyptiens. Va donc. Je t'envoie vers le Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël.
Le cri du peuple est un appel de Dieu. Nous sommes le peuple ou nous sommes partie du peuple. Jean Vanier, en 1964, travaillait dans un centre psychiatrique. Je sais que la majorité, sans doute, de vous connaissez les origines de Foi et Partage, mais j'ai pensé que quelques nouvelles personnes pourraient comprendre pourquoi j'ai commencé par faire un petit peu référence à Jean Vanier, pour la même raison qu'on vient de le voir dans le texte de la Bible du livre de l'Exode. Il vivait en même temps avec Philippe et Raphaël, deux adultes ayant une déficience intellectuelle. Quand l'évêque de Toronto l'invite à animer une retraite spirituelle, plus tard on nomma ces retraites-là « Foi et partage », sont nos retraites depuis 68. Ces retraites ont marqué beaucoup de gens. Si on pouvait imaginer en reculant en arrière, que ces gens qui ont été marqués, particulièrement dans les années où on avait des retraites fermées, qui duraient 6 jours. C'est incroyable tout ce que ça a produit comme fruit. Ces retraites ont donc marqué beaucoup de gens. Je dirais que c'était un genre nouveau de retraite par rapport à ce à quoi on était habitué. Au-delà du fait qu'elles étaient mixtes, rassemblant des laïcs, hommes et femmes, des prêtres, à quelques occasions des évêques, souvent un ou deux évêques, mais des fois, j'ai vu à Aylmer, il devait y avoir une douzaine, quinzaine d'évêques, des gens de toute catégorie, de tout âge. C'était la façon qu'avait Jean d'annoncer la parole, je pense, qui a donné une couleur toute particulière à ses retraites. Il relisait la Bible, et moi j'ai remarqué que dans les tout débuts, il en relisait beaucoup plus, parce que son expérience est venue à nous donner beaucoup plus d'exemples de faits vécus. Il relisait la Bible à la lumière de son expérience de vie avec les pauvres, parmi les plus pauvres. Des personnes qui, bien souvent, en plus d'avoir une déficience intellectuelle, souffraient de maladies mentales et de handicaps physiques. C'est donc à partir de son milieu et aussi parce que parfois il allait dans des prisons provinciales ou des pénitenciers, qu'il relisait la Bible, parlant de Dieu et de Jésus. Et j'ai découvert tout doucement que Jean utilisait de moins en moins le mot « Dieu » pour le remplacer par le mot « Jésus », comprenant que pour certaines personnes, le mot « Dieu » c'est abstrait, « Dieu », alors que Jésus c'est très concret, on peut le toucher, on peut le sentir davantage. C'était un regard neuf sur un monde nouveau. Le monde du royaume qui est déjà là. On parle du royaume de Jésus, et souvent, le royaume de Jésus, là, c'est... On se trompe, on pense que ça veut dire le paradis avec un autre mot. Le royaume de Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire le monde des puissants, mais il est parmi vous. Donc, il est déjà là. Il existe. Vous l'avez touché aujourd'hui toute la journée, mais si vous aviez été à Sainte-Foy ou à Sillery ou à Limoilou, vous l'auriez aussi. Il était là, comme il est ici ce soir. La parole qu'annonçait Jean nous invitait à reviser nos images de Dieu, à reviser aussi les préjugés qu'on a souvent par rapport à nos frères et sœurs, les personnes les plus démunies. Que souvent la société cache, et de ce temps-là, dans ce temps-là, cachait beaucoup plus, puisqu'ils étaient cachés dans les hôpitaux psychiatriques et d'autres formes de lieux, d'immenses maisons. Je me demande, une fois, j'avais organisé une rencontre de Jean Vanier à l'hôpital Saint-Michel-Archange, mais... Ça a changé de nom, vous le savez, là. Robert Giffard. Alors, il a parlé à des grands messieurs puis des grandes madames. Là-bas, là, c'était les directeurs puis beaucoup de gens, là. Puis quelques années après, on a évidemment, lui, a parlé de son expérience de regrouper de ces personnes-là qui étaient dans les hôpitaux, de les regrouper dans des petits foyers, des petites familles, des groupes. Enfin, ce qui était déjà lâche et qui a continué à être lâche. Mais nous savons très bien que ces personnes-là, maintenant, on les trouve très souvent couchées sur les trottoirs, ou ces gens-là qui ont des besoins énormes en santé. On les cache peut-être parce qu'on a peur d'entendre l'appel de Dieu. D'entendre l'appel de Dieu. Car le cri du pauvre, c'est un appel de Dieu, de ce Dieu qui est unique. Je crois en un seul Dieu. Ce Dieu unique, non pas d'abord dans le sens qu'il n'y en a qu'un seul, mais dans le sens qu'il est unique, qu'il n'y en a pas d'autre pareil. Vous voyez la différence? Non pas qu'il y en a un seul, mais dans le sens qu'il n'y en a pas un autre pareil. Qu'il est unique, parce qu'il est le tout proche de nous, comme on en a parlé, je pense, Françoise et moi, depuis 3 jours. Le libérateur, le sauveur, celui qui nous libère de nos peurs, de nos peurs. Je parlais avec quelqu'un à un moment donné aujourd'hui, puis la peur de prendre la parole dans une équipe de la prière. Première retraite que j'ai faite, heureusement, elle durait... Un gros 6 jours, hein, on arrivait le vendredi soir ou le samedi soir. J'avoue que pour vraiment partager mon vécu, puis dire ça à Jésus, lui parler à Jésus dans l'équipe, tout fort devant les autres, ça me prit 3 jours. Et ce soir, c'est la fin de notre 3e journée, donc on commence la retraite. Chaque fois que je prêche une retraite, la 3e journée, qu'elle soit 6 jours ou 3 jours, c'est à peu près le 3e jour que les gens commencent à entrer dans la retraite. Et quand c'est une retraite fermée, c'est plus facile qu'une retraite ouverte, comme celle-ci, une retraite d'externe, parce qu'on ne retourne pas chez nous. Alors, on est toujours là. On intériorise, on est dans le silence, on est dans l'écoute, l'accueil. Cette façon d'annoncer la parole à partir de la communauté où Jean vivait me semble être fondée sur une expérience semblable à celle des auteurs bibliques eux-mêmes. Pas juste Moïse, je vais reprendre ce soir, mais les auteurs bibliques. Prenez-les d'un bout à l'autre et regardez surtout. Là-dessus, je vais sûrement m'arrêter, Françoise. Sortir quelques prières des gens dont on parle dans la Bible, mais quand on trouve leur prière, c'est exactement ce que Foi et Partage propose qu'on fasse. La prière du peuple d'Israël. On la trouve, je dirais, surtout dans l'Ancien Testament, cette forme de prière, comme on souhaite la vivre à Foi et Partage. Jean, le professeur de philosophie, n'a-t-il pas été appelé et envoyé par ce Dieu qui a entendu la clameur montée des hôpitaux psychiatriques. Et de ce milieu de travail et de vie, il commença, 4 ans plus tard, à annoncer la parole dans des retraites spirituelles en Amérique du Nord. Ainsi est né, en 1968, Foi et Partage, après l'Arche, et presque en même temps, 1970-71, Foi et Lumière. L'appel de Dieu en vue d'une mission, quand il est entendu à partir de la situation concrète du peuple, le peuple c'est nous, la situation concrète du peuple, situation de solitude, situation de pauvreté, situation de manque de logement, de soins de santé, d'un salaire minimum, la situation d'oppression, de rejet, etc. Situation d'exclusion, de marginalisation. Hein? Tous ces gens qu'on essaye de mettre de côté. L'appel alors apparaît très exigeant et provoque le plus souvent une réaction de crainte, de peur. Claude, ça t'est-tu dur t'en aller à l'Arche? Après ta première retraite, Foi et Partage? Il faudrait te laisser la parole, mais ce soir, c'est moi. N'avons-nous pas vécu cette expérience de peur quand Dieu, par le cri des plus démunis, nous a appelés à nous faire proches de nos frères et sœurs, souvent si différents de nous? En tout cas, qu'on voyait, nous, si différents de nous, qu'on est tenté de les regarder comme des anormaux. Mot que, vous le savez, Jean Vanier déteste comme la peste, les anormaux. Je pense que c'est nous qui sommes les anormaux, parce qu'on les trouve anormaux. Comme Pierre qui ne pouvait pas supporter que Jésus soit Jésus le Messie, il trouvait ça bien anormal, c'était lui qui était anormal. Lucien Bouchard, vous vous rappelez, il a perdu une jambe, là, le mangeuse de chair, là. Il a dit, je vous en supplie, ne me prenez pas, c'est parce qu'il vivait ça, hein, ne me prenez pas en pitié, regardez-moi comme une personne normale, autrement c'est tellement blessant. Dieu, entendant la clameur du peuple opprimé, marginalisé, angoissé, répond à son cri, au cri du peuple, et vient au milieu d'eux en appelant quelqu'un. Il vient au milieu du peuple en appelant quelqu'un. Le pauvre, il n'y a pas de main. Puis Jésus, il y a des mains, mais ils sont glorifiés, puis il y a des trous dedans, mais... Toi, moi, Luc, Matthieu et Paul, les autres, Moïse, les prophètes, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. André, qui va présider l'Eucharistie, c'est un presbytre. Vous ne comprenez pas, hein? J'ai des lunettes parce que je suis presbytre, parce que je suis vieux. Prêtre, prophète et roi, tu l'es. Parce que l'onction t'a consacré. Tu as été consacré par l'onction pour répondre aux cris du peuple Et Dieu t'envoie. Il dit, comme nous a répété, je ne sais pas combien de fois, Françoise, va, va, va. Puis c'est pas juste un petit va, là. Alors Moïse, après l'extrait que Jean a lu, alors Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, « Quel est son nom? Que leur dirai-je? » Dieu dit à Moïse, drôle de réponse, « Je suis celui qui suis. » Et il dit, « Voici ce que tu diras au peuple. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, vos ancêtres, m'a envoyé vers vous, c'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'évoquera de génération en génération. » Comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera toujours, qu'on répète en toujours. Entendant un tel appel, Moïse prend peur, il cherche à fuir cette mission à laquelle Dieu l'appelle. Il présente des arguments. Il feint l'humilité. Il dit, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites de ce pays d'esclavage? » Pourrais-tu faire une lecture? « Oh, je ne suis pas capable de faire une lecture. Oh non, je ne sais pas lire. » Peut-être que c'est vrai. Peut-être que tu n'as pas été à l'école. C'est correct. Tu n'es pas habile à faire une lecture. Et tu vas dire merci. Mais plus tard, je rappellerai que tu as d'autres dons. Dieu va te faire un autre appel. Qui suis-je pour aller trouver le peuple et le faire sortir d'Égypte? Qui suis-je pour devenir le chef? Mon Dieu lui répond tout doucement, « Je serai avec toi. » Et vois le signe qui montrera que je serai avec toi. Dieu aime donner des signes. Je serai avec toi et plus tard tu m'invoqueras sur la montagne. Et plus tard le peuple sera dans le pays où coule le lait et le miel. Un pays extraordinaire parce que là tu vas passer à travers le désert. Mais après le désert, ça va être le Jourdain, puis ça va l'eau qui va couler, puis ça va être fantastique, hein? Moïse résiste toujours et feint l'ignorance. Que dirai-je? Qu'est-ce que je vais lui dire? Dieu lui dit, lui révélant qu'il est le Dieu qui est, qui était et qui vient, Yahvé, le Dieu de toujours et pour toujours, lui rappelant qu'il est le Dieu de ses ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, à qui il a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les sables de la mer, c'est du monde, ça. Il est le Dieu de ses ancêtres avec qui il a fait alliance. Dieu a fait alliance, il s'est marié, si vous voulez un mot plus facile qu'alliance. Mais pourtant, on porte des alliances si on est marié. Et les religieuses et d'autres portent des alliances aussi, là. On porte des alliances, des signes qu'on a une alliance, un engagement. Il est le Dieu de ses ancêtres avec qui il a fait alliance, avec qui il a contracté un engagement. Cela ne suffit pas à Moïse. Toujours rempli de crainte face à l'inconnu de l'appel. Il a dit, « Qui suis-je? Que dirai-je? » Il est rendu à troisième. Il prétexte le manque de foi du peuple. Là, c'est plus son problème, c'est de la faute du peuple. On est en 2013. J'ai entendu dire que la majorité de nos églises se sont vidées. Est-ce le manque de foi du peuple? Ben, c'est ça que Moïse a dit. Et Dieu continue d'appeler. Ils ne me croiront pas. Je suis toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Tous ces prétextes cachent la peur et le peu de volonté de Moïse à s'engager généreusement. À bout d'arguments, il y en a trouvé trois, Moïse ose dire la vérité. Et Jésus plus tard dira, « Souliok » en inuit, « Celui qui fait la vérité devient libre. » Pas celui qui dit, celui qui fait, c'est un acte. Celui qui fait la vérité dans sa vie, par rapport à Dieu et par rapport aux frères, celui qui fait la vérité devient libre. Moïse avait dit, « Excuse-moi, mais envoie qui tu veux, un autre, n'importe qui, mais pas moi. » Alors, c'en est assez, Dieu s'irrite contre Moïse et lui parle clairement. Moïse avait dit, « Excuse-moi, mon Seigneur, envoie, je t'en prie, qui tu voudras. » La colère de Yahvé s'enflamma contre Moïse et lui dit, « N'y a-t-il pas à Aaron, ton frère, le Lévite? Je sais qu'il parle bien. Lui, le voici qui vient à la rencontre et à ta vue, il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous indiquerai ce que vous devrez faire. » Deux. Ce que vous devrez faire. Ton frère et toi. C'est lui qui parlera pour toi, au peuple. Il te tiendra lieu de bouche. Il te tiendra lieu de bouche. Quant à ce bâton, prends-le dans ta main. C'est par lui que tu accompliras des signes. Quel beau récit d'un dialogue entre Dieu et Moïse. Un dialogue qui montre le processus lent et difficile par lequel nous pouvons découvrir la volonté de Dieu sur nous. Avance en eau profonde. C'est pas plonge dans l'eau, tu vas te noyer. C'est prends une barque, puis avance. Monte dans la barque de l'Église, puis avance. Avec les autres, avance. C'est souvent à travers les diverses situations de la vie que nous entendons l'appel de Dieu pour la mission. Françoise nous l'a répété plus d'une fois, je crois. Dieu ne nous appelle jamais seuls. Pas vrai, Maurice? Pourquoi tu m'as fait descendre de Charlebourg, si tu allais connaître? Parce que tu avais attendu la même parole que moi et tu n'as pas besoin de répondre. Lui, c'était Moïse qui passait les nuits là, sur les rues de Québec, puis de Sainte-Foy, puis partout. Puis moi, ben, trois ans après, ils m'ont dit de prendre la parole. Dieu ne nous appelle jamais seuls. Moïse, si tu ne sais pas parler, ton frère Aaron, lui parle bien. Je le sais. Et moi, tu en entendras des interpellations, des cris. Tu vas voir, tu vas en entendre. Bien plus tard, après Moïse, après bien des prophètes, Dieu envoie son Fils Jésus, le Sauveur promis. Dieu s'humanise. Il prit chair de la Vierge Marie, engendrée par l'Esprit Saint, pour diviniser l'homme et la femme. Jésus, fidèle à la tradition biblique, s'imprègne de la situation concrète du peuple. Il vit une trentaine d'années dans le peuple. Il écoute tous les gens qui l'entourent. Puis la première fois qu'il parle, qu'il fait la lecture et qu'il fait l'homélie, il se fait sortir de la ville et jeter, il voulait le jeter en bas du précipice pour se débarrasser de lui parce qu'il n'aimait pas qu'il fallait aimer les païens. Il regarde, écoute, il voit le peuple là, prostrés, écrasés. Il envoie des foules sans berger, des gens ayant toutes sortes de besoins. Il envoie de village en village, de ville en ville. Il associe ses disciples à sa mission. Il appelle et envoie les 12 en premier. Ça suffit pas d'envoyer les évêques, les 12. Il envoie les 72, des laïcs. Moi, là, j'ai pas le temps ce soir, mais en lisant Saint-Luc, je suis sûr qu'il y avait des femmes là-dedans. Relisez Luc. Il aime beaucoup les femmes, puis il leur donne beaucoup de place. Rappelez-vous que c'est lui qui envoie Marie-Madeleine comme première apôtre après sa résurrection. C'est une femme. On n'a pas de femme prête. Ah! Ainsi, le peuple voit des signes que le royaume est déjà là. Et nous, si nous sommes touchés par la parole de Dieu, si nous voyons la situation pénible que vivent beaucoup de nos frères et sœurs, nous pouvons entendre l'appel de Jésus. Il nous envoie, il nous dit « va », et quand il nous envoie, ça veut dire qu'on est des apôtres, des envoyés, des missionnaires. Nous sommes faibles, fragiles, blessés, peureux. J'ai peur de partager ma prière en équipe. J'ai peur de parler avec Jésus amoureusement dans une équipe de frères et de sœurs. J'ai peur de le faire devant mes petits-enfants et mes enfants. J'ai peur de ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont dire. Je parle de moi. J'hésite, même à Noël et Pâques, de faire une prière avant le repas ou après. C'est épeurant. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais on peut aussi imposer une prière, et c'est pire que pas en faire, peut-être. Il faut être capable de discerner, peut-être. J'ai peur. Depuis que je suis dans le nouveau logement où nous habitons, Jacqueline et moi, un logement pour vieux, parce que je dis, si je ne peux plus dire le mot vieux, je ne peux plus dire enfant, je ne peux plus dire adolescent, je ne peux plus dire jeune homme, puis je ne peux plus dire jeune femme ni jeune fille. Alors, laissez-moi dire vieux. Nous sommes faibles, fragiles, et nous pouvons avoir peur. Et chez nous, dans mon nouveau logement, il y a quelques mille personnes dans les phases. Est-ce que je vais avoir le courage? Oui, si vous priez, que j'ai le courage de voir si on peut se rassembler pour faire quoi? Partager ensemble? Avoir un groupe de Bible? Je ne sais pas. Mais prions. Puis on trouvera. Essayez de discerner. Nous pouvons prêter nos cœurs, nos yeux, nos mains, nos pieds au Christ, sachant qu'une fois, sans pieds, ni mains, ni cœur, ni les beaux yeux de mon amour, le beau sourire. Elle n'a pas besoin de parler, elle n'a qu'à sourire. N'importe où elle n'est pas la seule. Sans cela, c'est une foi morte, nous dit Jacques au chapitre 2. Jésus nous envoie construire un monde plus juste et fraternel, plus égalitaire et solidaire. Égalité homme-femme, mais égalité entre toutes les générations, etc., etc. Trouver toutes les égalités à construire. La solidarité aussi. Voir l'autre comme un frère, comme une sœur. Être solidaire. Céline, Julienne, Claude, Denis, André, les autres, nomme-toi devant Jésus. Dis ton nom à Jésus si tu veux prendre une chance. Va. Va. Embarque encore plus dans la barque. Peut-être que tu peux prendre une rame. Jésus, il a besoin de tes mains. Il a besoin de la force de tes bras. Avance. Et quand tu rencontreras quelqu'un qui est dans le besoin, arrête. Écoute son besoin. Va. J'ai vu la misère de ce peuple, une société organisée sur les valeurs de l'individualisme, du besoin de dominer, de consommer, de posséder, d'avoir une deuxième auto, une troisième pour l'ado, et pour cela, d'avoir un grand garage à deux portes, comme celui du voisin, ou mieux, dans 2 ans, si le voisin en a fait un plus gros. Une société où c'est important d'avoir un spa dans la cour ou une piscine personnelle. Une salle de cinéma maison, une salle de jeu, etc. C'est ce que nous propose et c'est ce que nous dit la publicité à tous les jours, à répétition, parce qu'ils savent qu'à force de répéter, et c'est prouvé psychologiquement qu'à force de répéter, on arrive à les croire. Le mot « performance » réservé jadis aux Olympiques, devenu le slogan des gens ordinaires, il vient d'en avoir des Olympiques à Sherbrooke, là. C'était formidable. Mais avant, ça leur était réservé, ou à peu près. Mais aujourd'hui, c'est devenu le slogan des gens ordinaires. Alors, le sens de la vie devient payer mes dettes, payer ma carte de crédit, payer l'hypothèque. Hein? Quelqu'un me disait cet après-midi, c'est pas possible d'avoir un loyer dans ces places-là. Moi, je pourrais jamais, parce que j'aurais jamais un revenu pour être capable. Pour cela, il faut toujours courir. Courir. Courir devant la vie de peur qu'elle ne nous rattrape. Ainsi, on s'éloigne de nos vrais besoins, de nos vraies valeurs, des valeurs de notre cœur, de notre être profond. Heureusement, il y a des Rémi Girard, ce grand artiste de la grandeur des Noirets et Depardieu en France. Ben là, il est en Russie, là, mais ces grands acteurs-là, Rémi Girard, qui, père d'un enfant trisomique, peut dire à la télévision, « De mon enfant, je n'entends pas de performance, mais je me réjouis quand je le vois progresser à son rythme. » Fantastique! Hein? Un si grand artiste du Québec. Pour moi, c'est le plus grand, mais on a chacun nos goûts. Quand je le vois progresser à son rythme. Jésus a voulu que la mission soit vécue en communauté. Sacrement, signe du peuple de Dieu. Des communautés dans lesquelles, chaque personne chemine vers le partage de son don. Son don, là, c'est le don de l'esprit. Il ne faut pas mêler les dons et les talents. Les dons, c'est les dons de l'esprit. Vous les connaissez, paix, joie, etc. Mais aussi, selon ses charismes, ça c'est comme naturel, hein? Ses talents, ses richesses d'être. Tous égaux et solidaires dans la communauté. Celui qui a à donner la parole, à être le responsable. J'aime pas le mot responsable à foi et partage. Je l'agace pas mal avec ça. Parce qu'un responsable, comme j'ai déjà eu un supérieur qui disait, moi j'accepte pas d'être le responsable de la communauté parce que ça veut dire que les autres sont des irresponsables. Alors, il aimait pas le mot. Président, ça veut dire encore plus parce qu'un président, c'est un grand boss. Coordonnateur, c'est quelqu'un qui coordonne, c'est-à-dire qui fait travailler les autres. Il travaille pas beaucoup. Il s'assure de la communion de tous les comités, sous-comités, c'est son job. Il est coordonnateur pour que tout fonctionne en commune union. C'est les autres. C'est un beau mot. pas surprenant que la première, dès le début de Foyer Partage, on parlait de coordonnateur nord-américain, régional et local. Le message est passé. Tous égaux et solidaires. Nous pouvons répondre à l'appel de Jésus et collaborons à la mission de l'Église dans le monde d'autant et mieux que l'on appelle chacun à exercer son don, ses talents, à partager ses talents. Une communauté chrétienne, comme l'est Foi et Partage, a plus de chances d'être en santé et vivante lorsque chacun de ses membres partage ses talents et ses richesses, mais ses talents. Si quelqu'un ne peut pas lire convenablement, de sorte que l'Assemblée ne comprend pas ce qu'il lit et qu'ils sont obligés de prendre le prion pour savoir ce qui est lu, ben, ce n'est pas son talent. Alors, on ne l'invite pas à faire la lecture. Et comparer ça partout. C'est mon idée, elle peut être fausse. Puissions-nous prendre conscience, je terminerai avec ça, que foi et partage, je parle de Québec surtout, mais il faudrait parler d'ailleurs, c'était la même chose, mais comment foi et partage, Québec s'est rapidement dans les débuts, et ça continue, développé en fruits, a donné des fruits. Je ne peux pas toutes les nommer, d'ailleurs je ne les connais pas tous. Je me rappelle d'un centre jour qui s'appelait Retrouvailles. Je me rappelle de, bon, s'il y a eu Renaissance. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a d'autres. Je me rappelle que l'Arche Saint-Malachie est partie de Foi et Partage Québec. Puis avant d'être une arche, c'était un centre qu'une infirmière avait, etc. L'Arche L'Étoile, c'était en lien, etc. Les fruits de Foi et Partage. Les fruits de Foi et Partage dans toutes les communautés de Foi et Partage, dans tous les diocèses. Bon, je vais rappeler ceux ici parce qu'on est ici, là. Puissions-nous, finalement, continuer à nous laisser toucher par la situation souvent si angoissante de beaucoup de nos sœurs et frères dans nos communautés et nous laisser toucher de nos propres angoisses. Alors, nous pourrons, comme Saint Jean, dans son épître, dit ceci, et je nous souhaite à tous et chacun de revivre et de revivre cette expérience, de sorte qu'on pourrait dire, nous aussi, cela, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé du Verbe de vie du Seigneur Jésus, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché. Avez-vous remarqué que quand on parle, je lis ce texte-là, là, il y a tous les sens impliqués. Entendre, voir, sentir, toucher, tous les sens. T'es savant, Saint Jean, hein? Il connaissait tout ça, ce que les pédagogues doivent savoir pour bien enseigner. Ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, de l'action de Dieu dans notre peuple, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous et que notre joie soit complète.